Honoré de Balzac, Illusion perdue. 10. Lucien et Louise avaient, dans Du Châtelet, un espion intime qui guettait, avec la persistance d'une haine mêlée de passion et d'avarice, l'occasion d'amener un éclat. Sixte voulait forcer Madame de Bargeton à si bien se prononcer pour Lucien qu'elle fût ce qu'on nomme perdue. Il s'était posé comme un humble confident de Madame de Bargeton, mais s'il admirait Lucien rue du Minage, il le démolissait partout ailleurs. Il avait insensiblement conquis les petites entrées chez Naïs, qui ne se défiait plus de son vieil adorateur. Mais il avait trop présumé des deux amants, dont l'amour restait platonique, au grand désespoir de Louise et de Lucien. Il y a, en effet, des passions qui s'embarquent mal ou bien, comme on voudra. Deux personnes se jettent dans la tactique du sentiment, parlent au lieu d'agir et se battent en plein champ au lieu de faire un siège. Elles se blasent ainsi souvent d'elles-mêmes en fatiguant leurs désirs dans le vide. Deux amants se donnent alors le temps de réfléchir, de se juger. Souvent, des passions qui étaient entrées en campagne, enseignes déployées, pimpantes, avec une ardeur à tout renverser, finissent alors par rentrer chez elles, sans victoire, honteuses, désarmées, sottes de leur vain bruit. Ces fatalités sont parfois explicables par les timidités de la jeunesse et par les temporisations auxquelles se plaisent les femmes qui débutent, car ces sortes de tromperies mutuelles n'arrivent ni aux fats, qui connaissent la pratique, ni aux coquettes, habituées au manège de la passion. La vie de province est d'ailleurs singulièrement contraire au contentement de l'amour et favorise les débats intellectuels de la passion, comme aussi les obstacles qu'elle oppose au doux commerce qui lie tant les amants précipite les âmes ardentes en des parties extrêmes. Cette vie est basée sur un espionnage si méticuleux, sur une si grande transparence des intérieurs. Elle admet si peu l'intimité, qui console, sans offenser la vertu. Les relations les plus pures y sont si déraisonnablement incriminées que beaucoup de femmes sont flétries malgré leur innocence. Certaines d'entre elles s'en veulent alors de ne pas goûter toutes les félicités d'une faute dont tous les malheurs les accablent. La société qui blâme ou critique sans aucun examen sérieux les faits patents par lesquels se terminent de longues luttes secrètes est ainsi primitivement complice de ces éclats. Mais la plupart des gens qui déblatèrent contre les prétendus scandales offert par quelques femmes calomniées sans raison, n'ont jamais pensé aux causes qui déterminent chez elles une résolution publique. Madame de Bargeton allait se trouver dans cette bizarre situation où se sont trouvées beaucoup de femmes qui ne se sont perdues qu'après avoir été injustement accusées. Au début de la passion, les obstacles effraient les gens inexpérimentés, et ceux que rencontraient les deux amants, ressemblaient fort aux liens par lesquels les Lilliputiens avaient garrotté Gulliver. C'était des riens multipliés qui rendaient tout mouvement impossible et annulaient les plus violents désirs. Ainsi, Madame de Bargeton devait rester toujours visible. Si elle avait fait fermer sa porte aux heures où venait Lucien, tout eût été dit, autant aurait valu s'enfuir avec lui. Elle le recevait à la vérité dans ce boudoir auquel il s'était si bien accoutumé qu'il s'en croyait le maître. mais les portes demeuraient consciencieusement ouvertes. Tout se passait le plus vertueusement du monde. Monsieur de Bargeton se promenait chez lui comme un hanneton, sans croire que sa femme voulût être seule avec Lucien. S'il n'y avait eu d'autre obstacle que lui, Naïs aurait très bien pu le renvoyer ou l'occuper. Mais elle était accablée de visites, et il y avait d'autant plus de visiteurs que la curiosité était plus éveillée. Les gens de province sont naturellement taquins. Ils aiment à contrarier les passions naissantes. Les domestiques allaient et venaient dans la maison sans être appelés ni sans prévenir de leur arrivée, par suite de vieilles habitudes prises, et qu'une femme qui n'avait rien à cacher leur avait laissé prendre. Changer les mœurs intérieures de sa maison, n'était-ce pas avouer l'amour dont doutait encore tout Angoulême? Madame de Bargeton ne pouvait pas mettre le pied hors de chez elle sans que la ville sût où elle allait. Se promener seule avec Lucien, hors de la ville, était une démarche décisive. Il aurait été moins dangereux de s'enfermer avec lui chez elle. Si Lucien était resté après minuit chez Madame de Bargeton, sans y être en compagnie, on en aurait glosé le lendemain. Ainsi, au dedans comme au dehors, Madame de Bargeton vivait toujours en public. Ces détails peignent toute la province. Les fautes y sont ou avouées ou impossibles. Louise, comme toutes les femmes entraînées par une passion sans en avoir l'expérience, reconnaissait une à une les difficultés de sa position. Elle s'en effrayait. Sa frayeur réagissait alors sur ces amoureuses discussions qui prennent les plus belles heures où deux amants se trouvent seuls. Madame de Bargeton n'avait pas de terre où elle pût emmener son cher poète, comme font quelques femmes qui, sous un prétexte habilement forgé, vont s'enterrer à la campagne. Fatiguée de vivre en public, poussée à bout par cette tyrannie dont le joug était plus dur que ses plaisirs n'étaient doux, elle pensait à l'Escarbas et méditait d'y aller voir son vieux père, tant elle s'irritait de ces misérables obstacles. Châtelet ne croyait pas à tant d'innocence. Il guettait les heures auxquelles Lucien venait chez Madame de Bargeton et s'y rendait quelques instants après, en se faisant toujours accompagner de Monsieur de Chandour, l'homme le plus indiscret de la coterie, et auquel il cédait le pas pour entrer, espérant toujours une surprise en cherchant si opiniâtrement un hasard. Son rôle et la réussite de son plan étaient d'autant plus difficiles qu'il devait rester neutre afin de diriger tous les acteurs du drame qu'il voulait faire jouer. Aussi, pour endormir Lucien, qu'il caressait, et Madame de Bargeton, qui ne manquait pas de perspicacité, s'était-il attaché par contenance à la jalouse Amélie. Pour mieux faire espionner Louise et Lucien, il avait réussi depuis quelques jours à établir entre Monsieur de Chandour et lui une controverse au sujet des deux amoureux. Du Châtelet prétendait que Madame de Bargeton se moquait de Lucien, qu'elle était trop fière, trop bien née, pour descendre jusqu'au fils d'un pharmacien. Ce rôle d'incrédule allait au plan qu'il s'était tracé, car il désirait passer pour le défenseur de Madame de Bargeton. Stanislas soutenait que Lucien n'était pas un amant malheureux. Amélie aiguillonnait la discussion en souhaitant savoir la vérité. Chacun donnait ses raisons. Comme il arrive dans les petites villes, souvent quelques intimes de la maison Chandour arrivaient au milieu d'une conversation où Duchâtelet et Stanislas justifiaient à l'envi leur opinion par d'excellentes observations. Il était bien difficile que que chaque adversaire ne cherchât pas des partisans en demandant à son voisin « Et vous, quel est votre avis ?» Cette controverse tenait Madame de Bargeton et Lucien constamment en vue. Enfin, un jour, du Châtelet fit observer que toutes les fois que M. de Chandour et lui se présentaient chez Madame de Bargeton et que Lucien s'y trouvait, aucun indice ne trahissait de relations suspectes. La porte du boudoir était ouverte, les gens allaient et venaient, rien de mystérieux n'annonçait les jolis crimes de l'amour, etc. Stanislas, qui ne manquait pas d'une certaine dose de bêtise, se promit d'arriver le lendemain sur la pointe du pied, ce à quoi la perfide Amélie l'engagea fort. Ce lendemain fut pour Lucien une de ces journées où les jeunes gens s'arrachent quelques cheveux en se jurant à eux-mêmes de ne pas continuer le sot métier de soupirant. Il s'était accoutumé à sa position. Le poète, qui avait si timidement pris une chaise dans le boudoir sacré de la reine d'Angoulême, s'était métamorphosé en amoureux exigeant. 6 mois avaient suffi pour qu'il se crût l'égal de Louise, et il voulait alors en être le maître. Il partit de chez lui, se promettant d'être très déraisonnable, de mettre sa vie en jeu, d'employer toutes les ressources d'une éloquence enflammée, de dire qu'il avait la tête perdue, qu'il était incapable d'avoir une pensée ni d'écrire une ligne. Il existe, chez certaines femmes, une horreur des partis pris qui fait honneur à leur délicatesse. Elles aiment à céder à l'entraînement et non à des conventions. Généralement, personne ne veut d'un plaisir imposé. Madame de Bargeton remarqua sur le front de Lucien, dans ses yeux, dans sa physionomie et dans ses manières, cet air agité qui trahit une résolution arrêtée. Elle se proposa de la déjouer, un peu par esprit de contradiction, mais aussi par une noble entente de l'amour. En femme exagérée, elle s'exagérait la valeur de sa personne. À ses yeux, Madame de Bargeton était une souveraine, une Béatrix, une Laure. Elle s'asseyait, comme au Moyen-Âge, sous le dais du tournoi littéraire, et Lucien devait la mériter après plusieurs victoires. Il avait à effacer l'enfant sublime, Lamartine, Walter Scott, Byron. La noble créature considérait son amour comme un principe généreux. Les désirs qu'elle inspirait à Lucien devaient être une cause de gloire pour lui. Ce donquichottisme féminin est un sentiment qui donne à l'amour une consécration respectable. Elle l'utilise, elle l'agrandit, elle l'honore. Obstinée à jouer le rôle de Dulcinée dans la vie de Lucien pendant 7 à 8 ans, Madame de Bargeton voulait, comme beaucoup de femmes de province, faire acheter sa personne par une espèce de servage, par un temps de constance qui lui permit de juger son ami. Quand Lucien eut engagé la lutte par une de ces fortes bouderies dont se rient les femmes encore libres d'elles-mêmes et qui n'attristent que les femmes aimées, Louise prit un air digne et commença l'un de ses longs discours bardés de mots pompeux. « Est-ce là ce que vous m'aviez promis, Lucien ? » dit-elle en finissant. « Ne mettez pas dans un présent si doux des remords qui, plus tard, empoisonneraient ma vie. Ne gâtez pas l'avenir. Et je le dis avec orgueil, ne gâtez pas le présent. N'avez-vous pas tout mon cœur ? Que vous faut-il donc ? Votre amour se laisserait-il influencer par les sens, tandis que le plus beau privilège d'une femme aimée est de leur imposer silence? Pour qui me prenez-vous donc? Ne suis-je donc plus votre Béatrix? Si je ne suis pas pour vous quelque chose de plus qu'une femme, Je suis moins qu'une femme. Mais vous ne diriez pas autre chose à un homme que vous n'aimeriez pas, s'écria Lucien furieux. Si vous ne sentez pas tout ce qu'il y a de véritable amour dans mes idées, vous ne serez jamais digne de moi.
Oh, vous mettez mon amour en doute pour vous dispenser d'y répondre, dit Lucien en se jetant à ses pieds et pleurant.
Le pauvre garçon pleura sérieusement en se voyant pour si longtemps à la porte du paradis. Ce fut des larmes de poète qui se croyait humilié dans sa puissance, des larmes d'enfant au désespoir de se voir refuser le jouet qu'il demande.
« Vous ne m'avez jamais aimé !» s'écria-t-il.
« Vous ne croyez pas ce que vous dites, » répondit-elle, flattée de cette violence.
« Prouvez-moi donc que vous êtes à moi !» dit Lucien échevelé.
En ce moment, Stanislas arriva sans être entendu. Vit Lucien à demi renversé, les larmes aux yeux et la tête appuyée sur les genoux de Louise. Satisfait de ce tableau suffisamment suspect, Stanislas se replia brusquement sur Duchâtelet qui se tenait à la porte du salon. Madame de Bargeton s'élança vivement, mais elle n'atteignit pas les deux espions qui s'étaient précipitamment retirés comme des gens importuns.
« Qui donc est venu ? » demanda-t-elle à ces gens.
« Messieurs de Chandour et Duchâtelet, » répondit Gentil, son vieux valet de chambre. Elle rentra dans son boudoir, pâle et tremblant. « S'ils vous ont vu ainsi, je suis perdu, » dit-elle à Lucien.
« Tant mieux !» s'écria le poète.
Elle sourit à ce cri d'égoïsme plein d'amour. En province, une semblable aventure s'aggrave par la manière dont elle se raconte. En un moment, chacun sut que Lucien avait été surpris aux genoux de Naïs. Monsieur de Chandour, heureux de l'importance que lui donnait cette affaire, alla d'abord raconter le grand événement au cercle, puis de maison en maison. Duchâtelet s'empressa de dire partout qu'il n'avait rien vu. Mais, en se mettant ainsi en dehors du fait, il excitait Stanislas à parler. Il lui faisait enchérir sur les détails. Et Stanislas, se trouvant spirituel, en ajoutait de nouveau à chaque récit. Le soir, la société afflua chez Amélie. Car le soir, les versions les plus exagérées circulaient dans l'Angoulême noble, où chaque narrateur avait imité Stanislas. Femmes et hommes étaient impatients de connaître la vérité. Les femmes, qui se voilaient la face en criant le plus au scandale, à la perversité, étaient précisément Amélie, Zéphirine, Fifine, Lolotte, qui toutes étaient plus ou moins grevées de bonheurs illicites. Le cruel thème se variait sur tous les tons.
« Eh bien, disait l'une, cette pauvre Naïs, vous savez, moi, je ne le crois pas, elle a devant elle toute une vie irréprochable. Elle est beaucoup trop fière pour être autre chose que la protectrice de M. Chardon. Mais si cela est, je la plains de tout mon cœur. Bon, elle est d'autant plus à plaindre qu'elle se donne un ridicule affreux, car elle pourrait être la mère de M. Lulu, comme l'appelait Jacques. Ce poète Rio a tout au plus 22 ans, et Naïs, entre nous soit dit, à bien 40 ans.
« Moi, disait Châtelet, je trouve que la situation même dans laquelle était M. de Rubempré prouve l'innocence de Naïs. On ne se met pas à genoux pour redemander ce qu'on a déjà eu.
« C'est selon, dit Francis d'un air égrillard, qui lui valut de Zéphirine une œillade improbative.
« Mais « dites-nous donc bien ce qui en est » demandait-on à Stanislas en se formant en comité secret dans un coin du salon. Stanislas avait fini par composer un petit conte plein de gravelure et l'accompagnait de gestes et de poses qui incriminaient prodigieusement la chose.
« C'est incroyable !» répétait-on. « À midi !» disait l'une. « Naïs aurait été la dernière que j'eusse soupçonnée. Oh, que va-t-elle faire ?» Puis des commentaires, des suppositions infinies. Du Châtelet défendait Madame de Bargeton, mais il la défendait si maladroitement qu'il attisait le feu du commérage au lieu de l'éteindre. Lily, désolée de la chute du plus bel ange de l'Olympe angoumoisin, alla tout en pleurs colporter la nouvelle à l'évêché. Quand la ville entière fut bien certainement en rumeur, l'heureux du Châtelet alla chez Madame de Bargeton, où il n'y avait, hélas, qu'une seule table de whist. Il demanda diplomatiquement à Naïs d'aller causer avec elle dans son boudoir. Tous deux s'assirent sur le petit canapé. « Vous savez sans doute, » dit du Châtelet à voix basse, « ce dont tout Angoulême s'occupe. »« Non, » dit-elle. « Eh bien, » reprit-il, « je suis trop votre ami pour vous le laisser ignorer. Je dois vous mettre à même de faire cesser des calomnies, sans doute inventées par Amélie, qui a l'outrecuidance de se croire votre rival. Je venais ce matin vous voir avec ce singe de Stanislas qui me précédait de quelques pas. Lorsqu'en arrivant là, dit-il en montrant la porte du boudoir, il prétend vous avoir vu avec M. de Rubempré dans une situation qui ne lui permettait pas d'entrer. Il est revenu sur moi tout effaré en m'entraînant sans me laisser le temps de me reconnaître. Et nous étions à Beaulieu quand il me dit la raison de sa retraite. Oh, si je l'avais connu, je n'aurais pas bougé de chez vous afin d'éclaircir cette affaire à votre avantage. Mais revenir chez vous après en être sorti ne prouvait plus rien. Maintenant, que Stanislas ait vu de travers ou qu'il ait raison, il doit avoir tort. Cher Naïs, ne laissez pas jouer votre vie, votre honneur, votre avenir par un sot. Imposez-lui silence à l'instant. Vous connaissez ma situation ici. Quoique j'y aie besoin de tout le monde, je vous suis entièrement dévoué. Disposez d'une vie qui vous appartient. Quoique vous ayez repoussé mes vœux, mon cœur sera toujours à vous. Et en toute occasion, je vous prouverai combien je vous aime. Oui, je veillerai sur vous comme un fidèle serviteur, sans espoir de récompense, uniquement pour le plaisir que je trouve à vous servir, même à votre insu. Ce matin, j'ai partout dit que j'étais à la porte du salon et que je n'avais rien vu. Si l'on vous demande qui vous a instruite des propos tenus sur vous, servez-vous de moi. Je serais bien glorieux d'être votre défenseur avoué. Mais entre nous, M. de Bargeton est le seul qui puisse demander raison à Stanislas. Quand ce petit Rubempré aurait fait quelque folie, l'honneur d'une femme ne saurait être à la merci du premier étourdi qui se met à ses pieds. Voilà ce que j'ai dit. Naïs remercia du Châtelet par une inclination de tête et demeura pensive. Elle était fatiguée jusqu'au dégoût de la vie de province. Au premier mot de du Châtelet, elle avait jeté les yeux sur Paris. Le silence de Madame de Bargeton mettait son savant adorateur dans une situation gênante. « Disposez de moi, » dit-il, « je vous le répète. » « Merci, » répondit-elle. « Que comptez-vous faire ? » ?»« Je verrai. » Long silence. « Aimez-vous donc tant ce petit Rubempré ?» Elle laissa échapper un superbe sourire et se croisa les bras en regardant les rideaux de son boudoir. Du Châtelet sortit sans avoir pu déchiffrer ce cœur de femme altière. Quand Lucien
et les quatre fidèles vieillards qui étaient venus faire leur partie sans s'émouvoir de ces cancans problématiques que furent partis, Madame de Bargeton arrêta son mari, qui se disposait à s'aller coucher, en ouvrant la bouche pour souhaiter une bonne nuit à sa femme. Venez par ici, mon cher, j'ai à vous parler, dit-elle avec une sorte de solennité. Monsieur de Bargeton suivit sa femme dans le boudoir. Monsieur, lui dit-elle, j'ai peut-être eu tort de mettre dans mes soins protecteurs, envers monsieur de Rubempré, une chaleur aussi mal comprise par les sottes gens de cette ville que par lui-même. Ce matin, Lucien s'est jeté à mes pieds, là, en me faisant une déclaration d'amour. Stanislas est entré dans le moment où je relevais cet enfant. Au mépris des devoirs que la courtoisie impose à un gentilhomme envers une femme en toute espèce de circonstances, il a prétendu m'avoir surprise dans une situation équivoque avec ce garçon, que je traitais alors comme il le mérite. Si ce jeune et cervelé savait les calomnies auxquelles sa folie donne lieu, je le connais, il irait insulter Stanislas et le forcerait à se battre. Cette action serait comme un aveu public de son amour. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre femme est pure. Mais vous penserez qu'il y a quelque chose de déshonorant pour vous et pour moi à ce que ce soit monsieur de Rubempré qui la défende. Allez à l'instant chez Stanislas et demandez-lui sérieusement raison des insultants propos qu'il a tenus sur moi. Songez que vous ne devez pas souffrir que l'affaire s'arrange, à moins qu'il ne se rétracte en présence de témoins nombreux et importants. Vous conquerrez ainsi l'estime de tous les honnêtes gens. Vous vous conduirez en homme d'esprit, en galant homme, et vous aurez des droits à mon estime. Je vais faire partir gentil à cheval pour l'Escarbas. Mon père doit être votre témoin. Malgré son âge, je le sais homme à fouler aux pieds cette poupée qui noircit la réputation d'une nègre pelisse. Vous avez le choix des armes. Battez-vous au pistolet. Vous tirez à merveille. J'y vais, reprit monsieur de Bargeton, qui prit sa canne et son chapeau. Bien, mon ami, dit sa femme émue. Voilà comme j'aime les hommes. Vous êtes un gentilhomme. Elle lui présenta son front à baiser, que le vieillard baisa tout heureux et fier. Cette femme, qui portait une espèce de sentiment maternel à ce grand enfant, ne put réprimer une larme en entendant retentir la porte cochère quand elle se referma sur lui. « Comme il m'aime !» se dit-elle. « Le pauvre homme tient à la vie, et cependant, il la perdrait sans regret pour moi. »